Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour notre voyage au cœur de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes toujours en compagnie de Franck Galland, spécialiste des questions urbaines et des questions de l'eau, auteur du Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau, un livre publié au CNRS Éditions. Dans un instant, nous prendrons la direction de l'Afrique. Rendez-vous également avec vos messages. Mais tout de suite, un mot de l'actualité française et la présentation d'un plan de rigueur qui ne dit pas son nom afin de réduire, vous le savez, les déficits publics. Présentation au Conseil des ministres mercredi, Patricia Lecomte.
Dès cette année, Bercy annonce 4 milliards d'euros supplémentaires d'économies, mais le plus dur sera en 2015 avec 21 milliards d'économies à réaliser. Pas d'augmentation pour les 5,5 millions de fonctionnaires qui voient le gel de leur indice jusqu'en 2017. Grâce à cette mesure, Bercy espère économiser 18 milliards d'euros. Tour de vis également sur les dépenses de santé. Leurs hausses seront limitées à 2% par an. Les médecins devront privilégier la chirurgie ambulatoire et la prescription de génériques. 10 milliards d'économies sont attendues en 3 ans. Gel également des prestations sociales, des retraites et des allocations familiales. Là encore, Bercy attend 21 milliards de recettes. Par ailleurs, l'État entend mener une réforme structurelle avec une refonte des collectivités territoriales. Elles contribueront à hauteur de 11 milliards d'euros. Seule bonne nouvelle, le gouvernement s'engage à faire un geste en direction des contribuables. Michel Sapin.
Nous proposons de ne pas augmenter les impôts. Les mesures économiques qui vous sont présentées sont, pour les 3 ans à venir, intégralement gagées par un effort sans précédent d'économie budgétaire.
Tout en poursuivant l'assainissement budgétaire, l'État accentue ses efforts en faveur de la croissance et de l'emploi avec une montée en charge du pacte de responsabilité et de solidarité.
Ceci expliquant cela, François Hollande, qui était en visite sur les terres de Jean Jaurès à Carmaux dans le Tarn, c'est-à-dire dans le sud-ouest de la France, le même jour, mercredi donc, a reçu un accueil, disons, mitigé. Envoyé spécial Anissa Al-Jabri.
Tout a changé à Carmaux. Il y a 2 ans, un des derniers meetings de la campagne présidentielle est la ferveur. Aujourd'hui, à peine le pied du président posé. La bronca, les sifflets malgré les barrières et un dispositif policier impressionnant. Des mots rugueux aussi. L'hommage de François Hollande à Jaurès, à Carmaux, ça ne passe plus.
Vous ne tenez pas vos promesses. Non, vous ne tenez pas, monsieur le président. Jaurès, il ne parlait pas comme vous.
Il faut le silence épais d'une salle à peine remplie pour que François Hollande assume plus que jamais son réformisme.
Que serait une politique sociale qui ne serait pas appuyée sur une économie solide, efficace? Mais ce serait une illusion, un artifice, du sable.
Le changement, je le conduirai, a répété le président, et ça ne s'appelle pas de la naïveté.
On se moque toujours des optimistes. On pense qu'ils imaginent une réalité selon leurs souhaits. L'optimiste est celui qui lutte, qui combat, qui conquiert. Selon Jaurès, c'était le courageux.
Un président dans les abîmes de l'impopularité qui lie plus que jamais son mandat aux résultats.
Sept jours en France.
Et revenons maintenant sur la mort d'un otage français, Gilberto Rodriguez Leal, au Mali, annoncé mardi par le Moudjahou, car il y a des zones d'ombre dans cette affaire. Marie-Pierre Olfan.
Première question, à quand remonte la mort de l'otage? L'Élysée laisse entendre dans son communiqué qu'il serait décédé il y a plusieurs semaines. En décembre, déjà, on sait que les autorités françaises avaient fait savoir aux familles que les nouvelles n'étaient pas rassurantes. Et dimanche, lors du retour en France des otages détenus en Syrie, Laurent Fabius s'était dit aussi très inquiet pour Gilberto Rodriguez Leal. Alors si effectivement le décès du Français remonte à plusieurs semaines, pourquoi ne l'apprend-on que maintenant? Autre question, de quoi est décédé l'otage français? L'Élysée écrit dans son communiqué qu'il y a tout lieu de penser qu'il est mort du fait des conditions de sa détention. Le Moudjahou affirme lui de son côté que l'otage est mort parce que la France est notre ennemi, je cite, sans préciser comment. Gilberto Rodriguez Leal est-il mort de maladie? A-t-il été exécuté par ses ravisseurs ou a-t-il pu être tué lors d'une frappe visant le groupe qui le détenait? Pour la famille, la question reste entière. Ce qu'assure en tout cas Irène, la sœur de l'otage, c'est qu'il n'était pas malade au moment de son voyage et qu'il n'était pas sous traitement.
Une semaine d'actualité donc, puisque nous avons fait un arrêt rapide en France, Franck Galland, j'en profite pour rappeler que selon le Bureau de Recherche Géologique et Minière, le fameux BRGM en France, 87% des réservoirs affichent des valeurs égales ou supérieures à la normale, donc les nappes phréatiques françaises sont remplies.
Nous avons eu un printemps 2013 particulièrement pluvieux, chacun s'en souvient. Aujourd'hui, la vraie problématique que nous avons, y compris sur la région parisienne, c'est une problématique d'inondation possible. Donc on peut dormir tranquille sur nos réserves en eau, même s'il faut être vigilant, toujours vigilant, sur la bonne utilisation des réseaux, sur l'efficience de ces réseaux urbains qui
desservent... Il y a des fuites.
Vous avez toujours des fuites dans un réseau, c'est tout à fait normal, mais les performances tant de sociétés privées que de sociétés publiques t'en a montré que nous avons sans doute des ratios parmi les meilleurs d'Europe.
Franck Galland, votre livre est passionnant, je rappelle qu'il s'intitule Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau, c'est un tour du monde des questions liées à l'eau aujourd'hui. Et vous vous arrêtez, on parlera de l'Afrique dans un instant, notamment du Nil, sur les rives africaines, en revenant sur les printemps arabes, et vous vous dites que ces printemps arabes n'ont pas été sans conséquences sur les infrastructures de l'eau.
Ces printemps arabes ont eu lieu dans des zones soumises à stress hydrique.
Bien sûr.
Où la bataille de l'eau, nous pensions gagner les batailles de l'eau. C'était le cas de la Tunisie, où sous Ben Ali, effectivement, les visions, les stratégies, voire les délires de président Ben Ali, il y avait un souci, parce que l'eau, c'est le pouvoir. C'est la vieille stratégie de Wittfogel qui montrait que l'eau est un instrument de pouvoir. Donc donner de l'eau aux populations, c'est une manière d'exercer un pouvoir, une coercition sur ces populations. Donc c'est vrai que la Tunisie, pendant des années, n'a pas manqué d'eau, a été toujours sur des logiques d'investissement, d'efficience des réseaux. Les opérateurs privés, français en particulier, n'ont jamais réussi à développer du service dans ce pays, puisque les régies communales, les régies municipales étaient particulièrement bien gérées. Ce que je constate, c'est que depuis cette situation formidable pour les droits de l'homme, pour cette esprit de liberté, ce vent nouveau qui est arrivé en Tunisie, les conséquences sur les infrastructures sont assez lourdes. Pourquoi ? Parce que la Tunisie, mais c'est également et surtout le cas de la Libye, par exemple, et également de l'Égypte, était déjà à flux tendu. Donc plus d'investissement, des conséquences de panne électrique sur l'alimentation en eau, parce que dans nos métiers, pas d'électricité signifie pas d'eau, pas d'assainissement. Donc impact immédiat, des cadres qui étaient issus de la précédente administration qui sont partis. Or, ils étaient certes peut-être politiquement affiliés au précédent régime, mais sans doute compétents. En tout cas, ils ne sont plus aux manettes de ces sociétés municipales. Donc, effectivement, la Tunisie a connu, alors non pas des émeutes de la soif, mais des situations excessivement tendues sur des grandes villes comme Sousse-Monastir, une situation quasiment d'émeute liée à l'eau dans la province de Gafsa l'été dernier. Parlons de la situation, mais exceptionnellement grave, que vous avez sur les villes côtières libyennes, suite à cette situation chaotique née de la chute du despote Kadhafi.
Parce que là, pour la Libye, on parle souvent du pétrole, mais jamais de l'eau. Hein.
Mais l'eau est essentielle. Ouais. Faut rappeler que Kadhafi a dépensé 30 milliards de dollars sur cette rivière artificielle qui amène de l'eau de réserves fossiles de la nappe septentrionale du Sahara, la ramène grâce à d'énormes stations de pompage, d'énormes conduites visibles et enterrées sur 3500 kilomètres, tout ça pour alimenter en eau les villes côtières de Tripoli et Benghazi, qui ont des taux de fuite de 40% aujourd'hui. Donc, c'est une eau excessivement précieuse, c'est l'eau de leurs arrière-arrière-arrière-petits-enfants, avec des coûts de transport absolument faramineux, et avant, entre guillemets, la chute du guide libyen, il était question, d'ailleurs, que les sociétés françaises, Veolia Environnement, Suez Environnement, aillent travailler sur place pour gérer les réseaux urbains, comme ils savent le faire. Et il n'y a pas, prenons un exemple d'un autre pays arabe, qui est l'Arabie Saoudite, pays aujourd'hui stable, et le plus longtemps stable tel que je l'espère. Mais les Saoudiens ont longtemps cru que le pétrole c'était comme l'eau, il y en avait ad vitam aeternam. Ils n'ont plus le plus gros taux de consommation per capita au monde. Sauf que dès le début des années 2000, ils se sont rendus compte que cette situation ne pouvait plus durer. D'où la nécessité de faire venir des opérateurs compétents pour gérer leurs grandes villes. Ce fut l'arrivée de Veolia à Riyad, de Suez Environnement à Jeddah, et ce qu'on sait moins, de la Sor à la Mecque. Vous savez par exemple qu'en période du Hajj, période de pèlerinage, ouais, la société Sor gère 4 millions de personnes en eau. C'est absolument un challenge quotidien faramineux.
Il faut s'arrêter rapidement dans un autre pays du Maghreb. Là, on quitte les printemps arabes. L'Algérie, on a parlé ici même de la réélection d'Abdelaziz Bouteflika lors de l'élection présidentielle très récente, il y a quelques jours. Vous vous dites, en tant que spécialiste de l'eau, que l'Algérie a fait d'énormes efforts en la matière.
Alors, je termine mon livre sur un chapitre que j'ai intitulé « La renaissance hydraulique algérienne » parce que c'est à la fois un coup de chapeau et c'est un immense message d'espoir, puisque qui eût cru au moment de cette coulée de boue de Bab El Oued, il y a plus de 10 ans, qui emmenait à la mer quand même 700 personnes, décédées bien évidemment, dans des conditions dramatiques, qui eût cru que l'Algérie se relèverait, tant en termes d'accès à l'eau qu'en termes de réseau d'assainissement. Et ça a été toute l'œuvre du président Bouteflika, de son ministre des Ressources en eau de l'époque, Abdelmalek Sellal, devenu Premier ministre depuis, son directeur de campagne, qui ont fait un énorme travail. Aucun pays, à part la Chine, au monde, n'a investi autant que l'Algérie sur les 10 dernières années. On parle de 25 milliards de dollars, à la fois sur la quantité, politique de construction de barrages, de grands transferts d'eau. Parlons de ce transfert qui alimente en eau les 350 000 habitants de Tamanrasset, par exemple, qui a été inauguré en 2011. Les grands transferts sur la région oranaise, le MAO, etc. Sans parler des stations de dessalement. Aujourd'hui, quand vous atterrissez à Alger, vous avez une station de dessalement dans la baie d'Alger. Donc, on augmente l'offre en eau, mais dans le même temps, on agit sur la demande. On fait venir des opérateurs compétent. Alors, c'était encore une fois cocorico, pour une fois qu'on peut accompagner nos entreprises françaises. L'arrivée de Suez Environnement, par exemple, à Alger, 2006, c'était des eaux de Marseille, à Constantine, et puis à Aguas de Barcelona, c'était des eaux de Barcelone à Oran. Donc, aujourd'hui, tout ça est bien géré, et tant mieux pour les Algériens qui ont enfin de l'eau H24 sur les grandes villes.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Un salut à quelques auditeurs qui nous ont écrit à la page Une Semaine d'Actu de Facebook, quelques auditeurs d'Afrique. Bonjour à Mahamat, à N'Djamena, à Komla Avor, à Lomé. Bonjour à Idriss à Paris, en revanche. Bonjour à Kevin et Ibrahim à Ouagadougou et à Bakari à Bamako.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir au Mali, Franck Galland. Le Conseil de sécurité de l'ONU presse en effet le pays d'entamer un dialogue, un vrai dialogue Nord-Sud, alors que Bamako vient de nommer un négociateur, justement, en la personne de l'ancien Premier ministre Modibo Keïta, à New York mercredi, Karim Lebourg.
Le Conseil de sécurité a voulu marquer son impatience vis-à-vis du Mali, car depuis l'accord du 18 juin 2013, les pourparlers avec les groupes armés du Nord sont au point mort. Le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, a défendu devant le Conseil de sécurité l'engagement de Bamako à ouvrir un dialogue.
Je pense que le dialogue est en cours, il y a eu des avancées, donc nous espérons que dans les jours à venir, nous allons pouvoir aller très vite dans le processus de négociation.
Le train de la paix est parti, on ne peut plus faire marche arrière, a lancé le représentant de l'ONU au Mali, Bert Koenders, qui veut convaincre le gouvernement malien et les groupes armés de surmonter leurs réticences.
Il n'y a pas d'alternative, les Maliens sont fatigués. Maintenant, quand on connaît la méfiance qui existe encore, je veux dire ça aussi aux groupes armés, ils doivent maintenant participer. Il n'y a pas de préalable d'un côté à l'autre. Parce que si ça prend trop de temps, ça peut vraiment mettre en discussion la sécurité au Nord.
Une sécurité fragile, un casque bleu guinéen a été sérieusement blessé quand son véhicule a roulé sur une bombe artisanale mercredi sur l'aéroport de Kidal.
Quoi qu'il en soit au Mali, la guerre de la France contre les islamistes continue en toute discrétion. Correspondance mardi de Serge Daniel.
De sources proches des opérations militaires françaises dans le nord du Mali, on avance le chiffre d'une trentaine d'islamistes tués au cours des 3 dernières semaines. Parmi les noms de djihadistes tués qui circulent, celui de l'Algérien Abou Wahab. Si sa mort est confirmée, l'une des principales brigades combattantes d'ACMI dans le septentrion malien vient de perdre son numéro 2. Tactiquement, les interventions de l'armée française se déroulent au sol et à l'aide de moyens aériens. Ce qui frappe sur le terrain, explique une source sécuritaire étrangère, c'est la détermination des islamistes. Ils reculent, se terrent, mais réapparaissent ensuite par surprise. Récemment, par exemple, à Zouérat, dans la région de Tombouctou, ils ont fait irruption dans un marché, distribué des tracts, menacé des populations soupçonnées de collaborer avec les forces étrangères. La lutte contre ces islamistes sera longue, reconnaît un expert qui ajoute « Il faut pour réussir continuer à traquer les terroristes dans le nord du Mali, mais enfin engager la lutte dans d'autres pays de la région qui leur servent de base de repli. »
Suite d'une semaine en Afrique, avant de vous retrouver, Franck Galland, et de parler de l'eau et du Nil, précisément, nous partons pour le Soudan du Sud, où quatre anciens dignitaires proches d'Éric Machar, accusés d'avoir fomenté un coup d'État, ont été libérés par le régime. Un geste, alors que le 193e État de l'ONU vient d'être une nouvelle fois condamné par le Conseil de sécurité. Sébastien Demet.
Cette décision survient alors que Djouba subit une double pression. D'abord celle de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé son horreur et sa colère devant le massacre de la mi-avril à Bentiu. Les 15 membres ont menacé de prendre des mesures appropriées contre les responsables d'exactions. Une menace de sanctions ciblée brandie pendant les débats déjà par les États-Unis, alliés historiques du Soudan du Sud et parrains de son indépendance. Le Conseil a également dénoncé le ciblage ethnique systématique des civils, mettant en demeure Salva Kiir et Riek Machar de sanctionner les coupables. Des injonctions au ton très ferme, votées de surcroît à l'unanimité et donc aussi par la Chine, qui a massivement investi dans le secteur pétrolier sud-soudanais. L'autre pression est militaire. En effet, l'abandon des charges a été décidé alors que l'armée vient d'enchaîner les défaites dans l'état stratégique d'unité, une zone pétrolière aujourd'hui quasi entièrement sous contrôle rebelle. En tout cas, la libération des quatre hommes était une exigence de Riek Machar pour négocier avec le pouvoir, mais difficile de dire si cela suffira à la reprise des pourparlers repoussés au 28 avril. En attendant, Djouba a gardé un moyen de pression puisque les poursuites judiciaires contre Riek Machar ont été maintenues.
À noter aussi, à noter hélas, dans l'actualité africaine, le déraillement d'un train de marchandises qui a fait des dizaines de morts en République démocratique du Congo. Notre correspondante Léa Lisa Westerhoff a fait un point hier.
Lorsqu'ils ont déraillé à la sortie d'un virage, les 20 wagons qui composaient ce train de marchandises se sont couchés, certains les uns par-dessus les autres, d'autres au fond d'un ravin d'une dizaine de mètres. Voilà qui complique les opérations de secours. Une grue envoyée sur place avait permis de relever 4 wagons. Hier, il en reste 16 encore. Il faudra donc du temps, 5 jours, selon la Société nationale de chemin de fer, pour que les opérations de secours soient menées à bien. Autre difficulté, personne ne sait combien exactement de passagers étaient montés à bord. La plupart l'ont fait clandestinement. Une pratique courante en RDC pour arrondir les fins de mois difficiles des employés de la société de chemin de fer. Accrochés aux portières ou sur le toit du train, ces passagers étaient d'autant plus vulnérables au moment de l'accident. Seule certitude, selon plusieurs sources, le train était bondé, car après 3 semaines d'attente, c'était le premier à quitter la ville de Kalemi. Autant d'éléments qui expliquent que 3 jours après le drame, le bilan pourrait encore s'alourdir.
À retenir aussi la grève des étudiants en Burundi. Elle dure depuis plus de 40 jours. Les grévistes protestent contre une réforme de l'octroi des bourses. Et bien sûr, le retour rocambolesque d'Abdoulaye Wade à Dakar. On vous en parle dans nos journaux.
Sept jours en Afrique.
Alors que la musique et le ruissellement de l'eau nous accompagnent, Franck Galland, il faut nous arrêter donc en Afrique, bien sûr, car vous consacrez à une partie importante aussi de votre livre au Nil. Et là, il y a aussi un enjeu géopolitique majeur, car l'Égypte et l'Éthiopie sont dans une situation de tension importante, extrême presque, à cause de l'eau, à cause du Nil.
C'est vrai que la tension, malheureusement, ne fait que s'exacerber depuis une petite dizaine d'années.
Je me souviens des propos de Robert Rothberg, qui était un des grands professeurs d'Harvard, qui appelait, il y a environ 4 ans, les autorités américaines à faire une grosse pression sur l'Égypte, sous perfusion financière américaine, mais aussi sur l'Éthiopie, afin que ces deux pays n'en viennent pas aux mains. Pourquoi ? En fait, depuis les accords de 1959, l'intégralité du Nil revient à deux pays, l'Égypte et le Soudan. 5,5 milliards de mètres cubes à l'Égypte, 18,5 milliards de mètres cubes au Soudan. Et l'Éthiopie, qui pourtant donne sa source au Nil. Le Nil bleu prend sa source en Éthiopie sur le lac Tana.
Alors il y a le Nil bleu et le Nil blanc. Hein.
Conformément aux accords de 59, ne peut pas utiliser à son profit le débit du Nil. Et à chaque fois, effectivement, sur les 40 dernières années que l'Éthiopie a essayé, sous ses différents régimes, régime de Mengistu, marxiste-léniniste, d'essayer de faire quelque chose pour développer des capacités hydroélectriques ou des capacités d'irrigation, immédiatement les protestations commençaient par voie de presse, puis des protestations diplomatiques, des questions parlementaires, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à la croisée des chemins. Pourquoi ? Parce qu'on a d'énormes enjeux de sécurité alimentaire, des énormes enjeux démographiques. Rappelons que l'Égypte, en 2025, sera 100 millions d'habitants et 110 millions d'habitants en Éthiopie. Que l'Éthiopie ne peut plus se satisfaire sur sa logique de développement économique.
En plein développement, l'Éthiopie.
En plein développement, qui devient un atelier de sous-traitance du monde entier, ne peut plus se satisfaire d'accords de 1959. Et quand vous écoutez effectivement certains caciques du Caire ou de Khartoum qui se réforment même à des traités Ante de 1902 par lequel l'empereur Ménélik, l'empereur éthiopien, s'est engagé auprès de la puissance tutélaire de l'époque, qui était la Grande-Bretagne, qui était la puissance présente sur cette partie égyptienne. Soudanaise. En tout cas, Ménélik s'engageait à ne jamais utiliser les eaux du Nil. Bon, ce n'est plus tenable et aujourd'hui, l'Éthiopie a un besoin de croissance, a un besoin de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique. Et le plus bel exemple, c'est ce barrage qui est le barrage Renaissance, le Great Renaissance Dam, qui sera l'infrastructure du 21e siècle de l'Afrique, le plus grand lac d'eau douce d'Afrique avec 63 milliards de mètres cubes, la plus importante puissance hydroélectrique d'Afrique et la 13e ou 14e du monde. Et en 2017, ce barrage sera terminé. Donc ce barrage, d'après les autorités égyptiennes, à l'évidence, va avoir des conséquences sur le débit du Nil. Débit du Nil qui est essentiel à l'alimentation en eau de 98%, de 95% de la population égyptienne, et 98% des ressources en eau de l'Égypte proviennent de ce Nil. Donc à l'évidence, on arrive à un casus belli, et je vais vous donner juste une petite anecdote que nos auditeurs pourront aller voir sur YouTube. Quand Mohamed Morsi était encore aux commandes de l'État égyptien, juste avant sa destitution en juillet 2013, il y a eu un 6 minutes sur YouTube où on voyait une commission de hautes autorités égyptiennes réunies sous Mohamed Morsi, des représentants du ministère de la Défense, du ministère de l'Agriculture, du ministère des Ressources en eau, et qui parlait assez librement devant la caméra sur les mesures de représailles que l'Égypte pourrait mettre en œuvre si ce Renaissance Dam, dont la finalité est pour 2017, aller jusqu'au bout. Donc, l'un des conseillers de Mohamed Morsi, visiblement filmé à son insu, mais il n'en était rien. Ouais. Ce film a été posté à des fins de mise en garde, mais c'était, bah, effectivement, faut que nous puissions sponsoriser des mouvements de rébellion qui vont venir déstabiliser l'Éthiopie. Un autre disait, mais ça serait pas mal, effectivement, que nous puissions augmenter les capacités de représailles de l'armée de l'air égyptienne, etc., etc. Et on arrive, si vous voulez, à la croisée des chemins, et ma crainte est la suivante, l'Égypte étant dans une situation excessivement chaotique et ayant besoin d'une forme de remobilisation nationale autour d'un thème qui ne soit pas celui des divergences ethniques, religieuses, trouver un bouc émissaire au mot de la société égyptienne
classique
peut être tout à fait possible avec le péril tel qu'il est envisagé. Les Égyptiens appellent ça le coup de poignard dans le dos permanent qui vient effectivement d'Éthiopie. Et c'est ma seule crainte. Sur fond aussi de rivalité religieuse, rappelons que cette Éthiopie et ce fleuve, le Nil bleu que les Éthiopiens appellent Abay, est un fleuve essentiel aux chrétiens d'Éthiopie. Oui. 45% de la population éthiopienne est chrétienne. Donc, on peut aller vers de grands périls et il est de notre devoir et du devoir de la communauté internationale de désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose, car nous sommes devant aujourd'hui un casus belli potentiel.
Alors eh bien, et on va conclure là-dessus parce que le temps passe toujours trop vite. Franck Galland, vous lancez véritablement un cri d'alarme aussi à propos du Yémen. Vous dites que si les choses ne changent pas, le pays va disparaître tout simplement à cause de
Les tensions dont nous venons de parler entre Éthiopie et Égypte, ça peut être le premier conflit hydrique militaire au monde. La disparition du Yémen en tant qu'État, ça peut être effectivement la première disparition au monde par manque d'eau. Aujourd'hui, vous avez une ville comme Sanaa, 2,2 millions d'habitants, pleine explosion démographique, qui a moins de 120 mètres cubes d'eau par an et par habitant en termes de réserve, c'est-à-dire rien. Aucune vie n'est plus possible à terme, je vous l'écris, je vous le redis. D'autres experts, le cabinet McKinsey a émis une évaluation puis des recommandations pour le gouvernement yéménite sur le sujet. Nous sommes excessivement pessimistes et quel gâchis. Rappelons que ce Yémen s'appelait l'Arabie Félix, l'Arabie heureuse. C'était une Arabie verte qui avait des techniques ancestrales d'irrigation. Et aujourd'hui, toute l'eau qui est utilisée à des fins agricoles est utilisée pour une seule chose, produire de la drogue. Produire du cat, 85% des ressources en eau utilisées à des fins agricoles par le Yémen aujourd'hui est là pour produire une drogue qui annihile la population du Yémen. Et dans l'indifférence générale. Donc voilà un pays qui est déjà considéré comme un rogue state par le State Department, c'est un pays effectivement voyou, qui est pourtant essentiel à la stabilité de la péninsule arabe et de la Corne de l'Afrique, et qui part à volo, et qui n'a plus d'eau, et qui va vers une situation purement catastrophique.
Comment avez-vous fait pour avoir une préface de votre livre signé par l'ancien patron du MI6 et service secret britannique?
Alors, relation à la fois personnelle, mais aussi fort de conviction, ce Richard Dearlof, qui est maintenant master d'un des plus vieux collèges de Cambridge, qui est le Pembroke College, à travers les différents échanges qu'on a pu avoir depuis un peu moins d'une dizaine d'années, est convaincu que l'eau devient un enjeu sécuritaire et stratégique, au même titre que l'est mon deuxième préfacier, qui est Miguel Angel Moratinos, qui a été un grand ministre des Affaires étrangères espagnol. Tout à fait.
Merci Franck Galland pour votre passion, votre clarté. Votre livre que je recommande s'intitule Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau. Il est publié au CNRS édition, votre maison fétiche en quelque sorte. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Une émission à podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Je vous retrouve demain dimanche pour le magazine Idées. Notre invité sera le philosophe Bertrand Vergely, auteur d'un ouvrage sur l'héritage des philosophes grecs. Deviens qui tu es, c'est le titre de cet ouvrage. Quand les sages grecs nous aident à vivre. Demain, 17h10 pour Paris et 18h10 vers l'Afrique en heure française. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.